Voilà, bonjour à chacune et à chacun. L'apôtre Paul nous invite, dans une de ses lettres, l'Épître aux Romains, à être renouvelés dans notre intelligence. C'est pas peu dire, je ne m'adresse pas qu'aux dames. J'entends lorsque je viens ici ou lorsque j'ai à partager la parole, parfois j'aimerais être attentif à me dire, en fin de compte, est-ce que je suis dans la cible ? Et puis, quels sont les liens qui peuvent exister entre ce qu'on vient de vivre et puis ce que j'ai envie de partager avec vous. Et il y a plusieurs choses qui ont été évoquées, dites, et dans les chants dernièrement, dans le chant avant la Sainte Cène, dans le dernier chant qu'on vient de chanter, où on essaie de placer, de lever les yeux au ciel. J'aimerais ce matin vous inviter, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, les cieux, et on regarde au ciel la bougie. Je me suis dit, mais en fin de compte, dans une station satellite là autour, une bougie à l'envers, ça serait intéressant de faire une photo, voir ce que ça représente, si c'est possible. Mais d'élever vos regards ce matin d'une manière particulière. Je vais peut-être vous surprendre ou vous déranger. C'est pas ce que je cherche, encore que. Si ça arrive, c'est bien. Pas que vous soyez dans des sphères qui ne sont pas justes, mais il y a plusieurs choses qui m'interpellent tout au fil de ces derniers mois. Et il y a une certaine forme de recentrage. Un proverbe chinois dit « Lorsqu'on lui montre le soleil, l'insensé regarde la main. » On nous invite à regarder parfois en haut et on s'arrête en cours de route. L'apôtre Paul a dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. » Eh bien, des gens sont devenus pauliniens, disciples de l'apôtre Paul, plutôt que, comme Paul, être imitateur du Christ. Ce matin, je constate, en tout cas depuis un certain temps, que nous vivons dans un monde particulier. Nous héritons d'une culture religieuse, d'une culture sociale, d'une culture culturelle, mais nous avons hérité de toutes ces choses-là, et nous sommes en 2019 maintenant, avec tout ce patrimoine-là, qui est bien, qui est intéressant, mais qui peut parfois être un véritable boulet ou nous enfermer. Aujourd'hui, nous sommes conditionnés dans la société à avoir une pensée d'une certaine forme de couleur. On nous dit ce que nous devons penser, on nous dit ce qui est bien, l'économie dicte ses lois et le monde tourne autour de principes que vous n'avez pas forcément intérêt à contrecarrer ou à avoir une politique différente ou un regard différent. Aujourd'hui, on cherche à normaliser. On cherche à avoir une pensée unique, un gouvernement unique, une politique unique, une économie unique et tout un tas de choses comme ça qui convergent. Avec notre héritage religieux, j'ai tendance à penser, et on va le voir un tout petit peu, je le signale, que notre Église, au sens large du terme, pas au sens étiquette de droite, de gauche, mais d'une manière générale, l'Église est sensible à ces courants de pensée qui veulent imposer dans l'Église une certaine manière de penser politiquement correcte. Et il est difficile de s'en détacher. Nous avons aujourd'hui des courants de pensée qui sont très forts, en tout cas dans les pays émergents, mais loin d'être étrangers à ce que nous vivons en Suisse, sur l'évangile de la prospérité, avec des lectures qui sont particulières. Ce matin, je souhaite effectivement pouvoir, avec ce premier verset, recentrer les choses sur la personne de Jésus. « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » C'est de cela qu'il est question, pleinement, dans tout ce que nous avons dit et chanté jusqu'à maintenant. Quand on a l'évangile de la prospérité, il faut que je zappe... Voilà. Nous avons une façon de penser aujourd'hui dans l'Église qui est imprégnée de ce que le monde veut faire. Aujourd'hui, par la médecine, par la technique, par la psychologie, par tous les moyens dont on peut disposer, on met l'homme au cœur et sur le trône de tout et on essaie de résoudre tous les problèmes que nous pouvons avoir. Vous avez un petit bobo, prends ceci, tu verras, ça va te faire du bien. Vous avez une difficulté, prends ceci, tu verras, ça va l'améliorer. Nous avons atténué et totalement fait disparaître la résistance à la frustration, la façon de vivre la souffrance, les difficultés, les problèmes. Nous avons la pensée dans le monde que tout doit être nivelé, planifié et bien sous tous les rapports. Et lorsque vous dérogez à ça, vous êtes marginal, vous êtes effectivement un petit peu comme un petit mouton noir, diraient certains partis politiques. Vous êtes étranger à la pensée globale et ce n'est pas très très bien. Dans l'Église, aujourd'hui, je pense effectivement que par l'évangile de la prospérité qui nous est enseigné ou promu de différentes manières, soit dit en passant, je ne suis pas contre la manifestation de l'Esprit et de la puissance du Saint-Esprit. Surtout pas. Mais ce qui nous est enseigné, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un problème, il faut prier pour que Dieu vous enlève ce problème-là. Vous avez une maladie, ben tant mieux, on va prier pour que vous soyez guéri. Vous êtes riche, c'est très bien, Dieu vous bénit. Vous ne l'êtes pas, vous avez peut-être un problème. Mais on met de nouveau l'homme sur un piédestal en pensant que toute la pensée de Dieu converge vers l'homme. Ce qui n'est pas tout à fait faux, mais comme dans une caricature, vous allez faire le portrait de quelqu'un, puis vous allez lui grossir le nez, parce qu'il a peut-être un nez particulier, ou vous allez y mettre des lunettes qu'on va voir beaucoup, ou vous allez y mettre des oreilles un petit peu comme Danny Boone, un peu jumbo. Ça va ressembler à la personne, parce qu'effectivement la personne a de grandes oreilles, mais ce n'est pas le portrait de la personne. Donc les choses que l'évangile de la prospérité peut nous apporter ne sont pas fausses, mais la place qu'elles occupent n'est pas la bonne. Je prends et j'assume pleinement ce que je vous dis maintenant. Donc on a mis l'homme au cœur. Et certains disent qu'en fin de compte, vivre l'évangile de la prospérité, on a une promotion à vouloir vivre l'Église des actes. C'est un peu la référence, parce qu'il y avait la Pentecôte, il y avait la manifestation du Saint-Esprit, les gens étaient guéris, les gens étaient délivrés, les gens étaient ressuscités, il y avait des choses qui étaient extraordinaires. Oui, mais ce que l'Église a vécu à la période des actes était tout sauf ça. C'était ça la manifestation. Mais la persécution, la vie de l'apôtre Paul, qui vient témoigner de ce qu'il dit, n'était pas une vie de sinécure. C'était quand même pas le calme et le bien-être tout le temps. J'en veux pour preuve certaines paroles que l'Évangile nous rapporte. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il y a un message là qui n'est pas que celui qui veut venir après moi va être béni de toutes sortes de bénédictions, puis il n'aura plus de problème, il sera guéri, il sera riche, il sera beau, il restera beau et jeune. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ce message-là n'est pas agréable à dire. Prêcher la mort n'est pas agréable. Ça n'a pas bonne presse. Et pourtant, il y a un passage obligé dans cette discussion-là. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, et la bonne nouvelle la sauvera. L'exercice que nous avons à vivre n'est pas gratuit, n'est pas facile. L'invitation à suivre le Christ n'est pas une exhortation à la facilité. Toutes les épîtres de Paul nous parlent de ça. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Dire certaines choses n'est pas toujours évident. Moi, ce matin, on connaît Muriel depuis très longtemps. Je trouve dans la vie de Muriel un témoignage de la présence de Dieu et de sa fidélité énorme. Elle n'a pas été guérie. Par rapport à certaines annonces qui sont faites, on pourrait discuter de certaines choses. Mais force est de constater que notre regard n'est pas forcément toujours centré sur les bonnes choses et que notre Église va être attentive à ce que ça représente. Alors ce matin, en parlant de ce que j'ai envie de partager avec vous, je reviens à ça. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est-à-dire que depuis le début, les choses sont en Christ et jusqu'à la fin, elles le seront. J'ose dire comprenez-moi ou allez un peu plus loin que ma pensée si je n'ai pas tout dit, que l'Église est une certaine forme de parenthèse. Ma vie est une forme de parenthèse. Elle a un début et elle a une fin. Donc l'objectif étant incarné et ayant un début et une fin, ne peut pas être la pensée directe de Dieu. La pensée de Dieu est centrée sur la personne du Christ. Je vais vous proposer des affirmations, des implications et des applications de ce que je suis en train de vous dire. Certaines affirmations, c'est pour placer le décor. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Situer la personne du Christ dans le temps de l'éternité, au commencement était. Ça veut dire que c'est une construction française qui est juste énorme pour notre intelligence, d'où l'intérêt d'être transformé pour pouvoir comprendre la pensée de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça nous met directement dans la perspective divine d'une certaine forme d'éternité. Avant que soient nées les montagnes et que tu aies créé la terre et l'univers, de toute éternité et pour l'éternité, toi, tu es Dieu. Pensez quand même que bien avant que la pensée d'une création existe, Dieu existait. C'est-à-dire qu'avant nous, il s'est passé des choses quelque part avant. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. La création du monde a un début. La création du monde a une fin, mais la personne de Christ est éternelle. C'est-à-dire que si les choses commencent en lui, je regarde le début de sa volonté et la fin de sa volonté doit être encore en lui. Le passage terrestre, le passage de ma vie est un passage. C'est intéressant plutôt que de penser que toute les choses convergent vers nous. Car en lui, Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. En lui, par lui, pour lui. On n'est pas très présent dans l'histoire. L'objectif, dès le départ, avant que le monde ne soit, est déjà centré sur la personne du Christ. Vous allez voir pourquoi par la suite. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Directement après, l'apôtre Paul nous dit : Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Toutes les préoccupations que nous avons centrées sur nous, comme si nous étions les propriétaires de nos vies, qu'on s'astreint à avoir un plan professionnel, une carrière, à répondre à nos besoins matériels, à être attentif à notre bonne santé, à être attentif à répondre à nos besoins, comme si nous avions effectivement quelque chose qui nous appartienne ou on est responsable de quelque chose. On a une part de responsabilité, hein, je n'enlève pas, mais j'aimerais juste rectifier la perspective qui peut être la nôtre sur les objectifs que nous avons dans nos vies. Après quoi courons-nous ? Quelles sont les ambitions, les perspectives que nous mettons à notre vie? L'insensé dit « demain je ferai », comme si nous avions une responsabilité centrée sur nous. On ne s'appartient pas. Alors, ça peut être discutable sur certains points, mais c'est une source de paix juste extraordinaire de savoir que nous ne nous appartenons pas. Le Christ nous a rachetés, on l'a dit tout à l'heure. nous lui appartenons. C'est-à-dire que le but de nos vies, le sens de nos vies, les perspectives de nos vies sont en lui et pas en nous. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même, car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. On ne vit pas pour nous. Et c'est intéressant de le savoir parce que ça peut décharger beaucoup d'objectifs et de préoccupations et de pressions qu'on peut avoir sur nos vies. Notre objectif n'est pas à nous, par nos propres moyens, de répondre à nos besoins, de vivre pour nous. En deuxième temps, peut-être. Mais en premier temps, ce n'est pas celui-là. Les implications, ça c'est un petit peu le décor que je viens de placer. Histoire de dire, en fin de compte, c'est vrai que peut-être je peux déplacer mon œil comme ça, ça n'exclut pas ce que je suis en train de vivre, mais de regarder quelque chose à côté. Les implications, ça va être effectivement, quelles en sont un petit peu les conséquences là autour. L'apôtre Pierre déclare, il leur fut révélé aux anciens que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, et que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Je vais avoir quelques versets qui vont venir comme ça, où les anges sont mentionnés. On sait parler des puissances, des démons, de la libération. Mais quand faisons-nous référence aux anges, les autres, ceux qui n'ont pas trahi, ceux qui ne se sont pas rebellés et qui sont à notre service, qui sont les messagers de Dieu, qui sont des créatures créées avant nous, juste invisibles, qui parfois savent se rendre visibles, prendre notre apparence. Là, cette perspective dont j'ai parlé avant, imaginez simplement que lorsque les choses sont en train d'être vécues sur la terre, les anges se penchent. Qu'est-ce qui se passe là en dessous ? Ils regardent ce que Dieu est en train de faire en nous et au travers de nous, ce qui témoigne de son œuvre dans les cieux. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ce que Dieu est en train de faire par l'Église n'est pas l'objectif final. L'objectif final, c'est que dans les cieux, avant que le monde ait été créé et que le clash ait eu lieu, ce que Dieu manifeste en nous et au travers de nous a comme objectif de régler ses comptes en haut. C'est intéressant de voir que lorsque nous pouvons vivre, il y a un rapport étroit entre ce que nous vivons, la façon dont nous glorifions Dieu a de l'impact dans les cieux et pas simplement sur la terre. Ça serait simplement sur la terre, on serait mal barré. Parce que depuis que le Christ est venu, c'est un beau fiasco. Ce que le monde est ne vient pas être une gloire à Dieu. Par contre, ce que je vis, ce que vous vivez, peut être une source de gloire pour Dieu dans les cieux. Imaginez la scène de Job. Je ne sais pas si c'est un livre historique ou un livre poétique. Je n'ai pas cette connaissance-là. Mais j'aime bien la scène du début. Satan qui se balade sur terre, qui vient discuter avec Dieu, et Dieu lui dit « T'as vu mon ami Job ?» Ce qui se passe en haut va avoir une répercussion incroyable sur la vie de Job. Mais le témoignage de la vie de Job va avoir un impact pas mal sur ce qui se passe en haut. Donc l'intention divine partait bien avant et la finalité est bien au-delà de ce qu'on a l'habitude de penser. De même, je vous le dis, qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se repent. Parce que les anges sont en train de regarder ce qui se passe. Tiens, un de plus. Victoire, gloire à toi. Parce que la défaite de Satan est bien présente. Et que dans les cieux, les démons savent ce que veut dire Jésus. Vous dites que vous croyez en Dieu. Mais oui, ça change quoi dans votre vie? Les démons aussi croient. Mais eux, ils tremblent. Parce que eux savent qu'à la croix, Jésus les a livrés en spectacle. Pas simplement en spectacle aux yeux des hommes, mais en spectacle de toute la création dans les cieux. Et eux savent, donc il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Sur le plan du Saint-Esprit, dont on a déjà parlé un petit peu, quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Le ministère du Saint-Esprit n'est pas de faire de lui la personne centrale de nos prédications et de notre préoccupation. De placer le Saint-Esprit au centre, pour autant que ça soit cohérent, ça joue. Mais on a une tendance à dissocier les choses dans certains mouvements, de mettre la personne du Saint-Esprit au centre. Dieu nous parle par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous parle de Jésus, de son œuvre, qui a révélé le Père. Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Allez dans cette pensée pour la compléter par vos propres références, par vos propres réflexions. Je ne suis pas dans la totalité de ce que j'aimerais partager avec vous. Moi, je vous offre une pensée. Allez ruminer la pensée. Il semble effectivement qu'un politique ait dit ça sur le plan politique. La Suisse a besoin de ruminer certaines décisions avant de les amener à Bruxelles. Ben moi, je trouve que dans certaines situations, on devrait être des ruminants spirituels. Ce que vous entendez ce matin, ruminez-le et laissez-le pousser un tout petit peu plus loin. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. C'est en Christ, de nouveau, que tout est centré. C'est là qu'on doit aller, c'est lui dont il est question, de sa personne, de son œuvre. Et le Saint-Esprit nous révèle ça. Je trouve intéressant, dans une forme de nouveau de construction et de culture religieuse, lorsqu'on s'adresse au Saint-Esprit puis qu'on le prie. Saint-Esprit fait ça. Oui, le Saint-Esprit n'est pas là pour autre chose que de révéler la personne du Christ. Elles sont indissociables, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont totalement indissociables, on le sait. Mais le Christ est venu révéler le Père. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il nous révèle ces choses-là, qu'il nous conduise dans toute la vérité. Donc, les priorités qu'on peut donner sont à nuancer à certains moments. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. De nouveau, il y a une pensée là exprimée par l'apôtre Paul où l'objectif final est centré en Christ. On ne doit jamais l'oublier, notre vie n'a d'objectif et de sens que de glorifier la personne du Christ. Et pas que sur terre. Preuve en est sur le nombre de personnes que nous avons dans nos communautés, sur l'impact que ça a dans la société, c'est pas là qu'est le plus fort. Mais lorsque je prends une décision qui fait plaisir à Jésus, il y a de la joie dans le ciel. Et je peux dire, par cette décision, Seigneur, je veux te glorifier. Et que les anges dans le ciel voient que moi, oui Seigneur, tu impactes ma vie. Glorifie-toi dans ma vie, au travers de ma vie, mais ne glorifie pas ma vie. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tout ce qui est sur la terre et ce qui est dans le ciel. Et rebelote, il en remet une couche. La terre et le ciel comme étant totalement associés, ça démarre là-haut, ça finit là-haut. La démonstration de ces choses sur terre n'a d'objectif que de satisfaire le regard des anges qui regardent ce qui se passe et qui voient la sagesse infiniment variée de Dieu. ce qui s'est passé dans les cieux avant la création du monde, ça s'est passé. Et Dieu, je ramène ça à une intelligence humaine, s'est dit, je vais montrer à toutes ces puissances qui je suis. Et au travers de l'histoire de l'humanité, de sa chute, du salut, de la prévision qui est faite, des promesses qui nous ont été faites, la perspective, c'est de nouveau les cieux. La terre a un début, elle a une fin, le ciel et la terre passeront. Donc l'objectif de Dieu ne peut pas être centré là-dessus. Je suis un être fini en étant incarné. J'ai un début, j'ai une fin, mais ma vie est éternelle en Christ. Une chose que j'aime bien, et que nous connaissons tous, de la prière sacerdotale que Jésus nous a appris, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors on pourrait dire sur la terre et aussi au ciel. Non, sur la terre comme au ciel. La référence est le ciel. La référence n'est pas la terre. La référence est le ciel. Et notre regard doit être centré sur la personne du Christ et sur cette perspective-là. Je trouve plus intéressant pour ma vie de me rendre compte que c'est cela qui se manifeste dans ma vie et au travers de ma vie. Dans un premier temps, c'est pour le témoignage dans les cieux. Les anges, on dit effectivement les puissances sont là, oh là là, j'ai des attaques, ou il y a des, oh là là, je... et on confesse qu'on a autour de nous, dans notre vie, des puissances qui sont là pour nous enquiquiner. Mais il y en a d'autres qui regardent ce qui se vit. Et lorsque je prends une bonne décision, que j'ai une attitude qui est adéquate, il y a des anges qui sont très inquiets parce que je manifeste la libération et le rachat que le Christ a opéré dans ma vie, et je dis, je n'ai plus rien à voir avec vous, et les autres sont contents, parce qu'il dit, chouette, Christ est vainqueur en lui. Mais nous sommes l'objet de préoccupations, de choses qui sont bien au-dessus de ce que nous vivons sur terre. Alors les applications, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence dans nos vies au quotidien ou autre? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ça notre véritable combat. Ce n'est pas d'obtenir quelque chose pour nous ici, mais c'est que par nos positions, nous luttons contre la pensée qui peut s'inscrire dans notre tête et contre les puissances qui sont dans les lieux célestes. Notre combat, il est là. Il est à nuancer, mais il est là. Il est centré là-dessus. Revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alors effectivement, j'entends la chair, on va ramener ça dans les caricatures aussi qui sont les nôtres. Mais la chair et ses convoitises, c'est quoi? C'est satisfaire à mes besoins. Si je ne m'appartiens pas, c'est au Christ, par son esprit, de répondre aux besoins qui sont les miens. Quand il dit à l'apôtre Paul, « Va, ma grâce te suffit », c'est-à-dire, je connais tes besoins. Avant même que je prononce une parole, le Seigneur sait de quoi j'ai besoin. Cherchez d'abord, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Il y a des préoccupations qui sont chez nous l'expression d'une inquiétude, d'un manque de foi, qui vient troubler la paix que le Christ a chèrement payée. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance du Christ, de son œuvre. Donc, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises, ce n'est pas que des histoires sexuelles. Les besoins de ma chair sont connus, mais ma préoccupation n'est pas à me battre toute ma vie pour répondre à ces besoins-là. C'est d'être dans la paix et la confiance que Dieu, lui, connaît mes besoins. Une missionnaire racontait, vous l'avez certainement peut-être lu dans un truc ou dans un autre, à quel point elle avait demandé à Dieu une chose et il lui avait donné une autre. Toute une série de choses comme ça qu'elle demande et que Dieu ne répond pas à sa demande telle qu'elle la formule, mais il y répond d'une autre manière. Et elle conclut ce petit texte, cette réflexion, en disant « Dieu n'a pas répondu aux choses que je lui demandais, mais il a répondu tout le temps à mes besoins. » C'est fondamentalement différent de faire la différence entre ces choses-là. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté dans les cieux. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Et mon âme rejoint cette pensée globale. Associe-toi à cette bénédiction de toutes les puissances, de tous les anges, dans les lieux célestes qui sont invités à rendre gloire à Dieu. C'est à cela que nous sommes appelés, à glorifier Christ, et il est dans les cieux. Et la vie de l'Église, votre vie, n'a de sens que là. Donc ne nous écartons pas non plus pour autant de tout ce que nous vivons au quotidien, de la pensée, de la présence de Dieu. Il est avec nous tous les jours. Réconfortons-nous par la présence de l'Esprit dans nos vies, mais ne pensons pas simplement que c'est là pour nous. C'est là pour lui. C'est en lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Et d'un seul coup, vous allez voir que dans votre vie, j'en suis absolument convaincu, vos épaules vont s'abaisser un tout petit peu, plus légères. Parce que les préoccupations, les priorités ne sont plus centrées sur vous. L'œuvre de Christ en vous, l'œuvre de Christ au travers de vous, produit des choses à sa gloire. Ça ne dépend pas de vous, ça ne dépend pas de moi. Moi, j'ai à me laisser faire. Et ce n'est pas la chose la plus facile à faire que de ne rien faire. En conclusion, Maranatha. Que dans toute cette perspective qui a commencé il y a très longtemps et qui finira jamais. Donc vous souhaitez bonne année en 2019 et vous dire bonne année. Dieu dit « Je suis celui qui suis ». Le temps de Dieu, c'est le présent. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, j'ai commencé cette prédication et je la finis avec la même parole, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Cette exhortation, ce n'est pas que vous n'étiez pas dans le vrai ou que nous sommes dans le faux, dans ce que nous vivons, mais que nous puissions grandir et élever le débat de notre relation avec Dieu pour la centrer sur lui dans les cieux et pas simplement comme objectif terrestre. Amen.